scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénario.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix du Scénarium. Alors je vais commencer par faire un petit mea culpa, j'étais pas là la semaine dernière. J'ai passé un week-end à faire du jeu de rôle avec plein de gens et j'en étais malade et du coup j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu faire l'émission parce que j'avais plus de voix. Je suis pas tout seul ce soir, je suis avec le nouveau locataire du micro bleu. Salut Richard.
Salut Seb.
Comme d'habitude, tu viens et tu vas nous parler encore de l'histoire de la fiction audio, c'est ça, hein?
Bah, je vais vous parler d'une fiction audio, oui, qui est importante dans l'histoire de la fiction audio française indépendante. Oui.
La phrase est bizarre, mais je pense que vous avez pu comprendre de quoi on allait parler. Comme le menu risque d'être chargé, on va voir que deux choses en fait. On va voir effectivement ta capsule, et puis après on va avoir un let's play un peu particulier, un let's play qui sera basé sur Chronique d'un vampire millénaire, mais je vous en reparlerai juste après. Et voilà, c'est déjà pas mal au programme.
Est-ce que toi tu vas mieux?
Je vais toujours mieux, mais j'ai encore un petit tout sautement. Mais bon, ça va. Je devrais arriver à survivre. Puis si je meurs, tu pourras finir l'émission comme si de rien n'était.
D'accord, c'est noté. Je pense que les auditeurs ont noté.
Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que tu nous as amené dans ta clé aujourd'hui, Richard?
Dans ma clé USB, cette semaine, je vous ai ramené un de mes feuilletons radio préférés, signé Furax.
Signé Furax. Premier épisode.
Mais c'est quoi un feuilleton radio ? C'est une fiction audio épisodique réalisée en premier lieu pour être diffusée régulièrement à la radio. Créé par Pierre Dac et Francis Blanche de 1951 à 1960, soit 50 ans avant le DDN, Signé Furax est une série loufoque en 5 saisons, composée en tout de 10 341 épisodes, puis redécoupée récemment en 585 épisodes d'une durée maximale de 10 minutes chacun. On commence avec l'histoire du boudin sacré. On a volé l'obélisque de la Concorde, remplacé par une contrefaçon en staff. Puis, c'est au tour du bronze du Lion de Belfort et des grilles de la place Stanislas, à Nancy. Et c'est signé Furax.
C'est du plâtre.
Du plâtre ?
Oui, monsieur, l'obélisque de Louxor a disparu.
Comment
quoi, quoi, c'est
là, c'est là.
L'obélisque a été remplacé par une grossière imitation en staff.
Non, je vous demande, écoute, de garder un secret absolu.
On a fait appel à Black et White, deux détectives privés, héros de la première saison de Signé Furax, pour résoudre le mystère de ces disparitions.
Alors vous, Black and White, vous, les valeureux détectives qui vous êtes couverts de gloire dans l'affaire des Barbus...
Oui, c'est même pour ça qu'on s'est retiré à Barbezieux.
Oui, ça ne vous dirait rien de reprendre du service?
Eh ben, qu'est-ce que t'en penses, Black?
Comme toi, White.
Alors, d'accord, messieurs.
Signé Furax est une aventure à suspense avec un brin de science-fiction. À cela s'ajoute une fantaisie constante et un univers empreint d'inventions poétiques. Et encore aujourd'hui, malgré son grand âge, ce feuilleton pourrait très bien ressortir grâce à son humour et son inventivité.
D'accord, messieurs.
D'accord.
D'accord.
Prêt ton serment.
Oh, ah non.
Non, pas ici.
Non, pas ici.
Où ça, à l'autre bout de la propriété, au vieux pressoir à cidre.
Au pressoir à cidre. Et c'est toujours là qu'on prête serment, chez nous.
Ah. Il est joli, ce vieux pressoir à cidre.
Oui, c'est ici que nous allons prêter serment.
Ce serment qui, en raison du lieu où nous sommes, prendra le nom de serment du jus de pomme.
Les plus attentifs parmi vous auront remarqué que le boudin sacré n'est pas la première saison. Le début de cette saga, Malheur aux Barbus, diffusé à la base sur une chaîne parisienne de la RTF, a été perdu dans les archives de l'INA. Mais vous pouvez commencer sans souci par le boudin sacré réalisé pour une autre radio, la toute jeune Europe 1. Cet opus fait donc office de soft reboot. Et si jamais cela vous plaît, vous avez d'autres saisons à découvrir avec La Lumière qui éteint, Le Gruyère qui tue et Le Fils de Furax. Vous en voulez encore plus ? Il existe 6 épisodes hors saison de 30 minutes chacun. Si jamais cette fiction vous plaît, vous pouvez la retrouver sur Deezer et Spotify grâce au site signéfurax.fr. Et c'est moi qui l'ai fait, ce site. Et si jamais cette chronique vous a plu, je vous recommande de me suivre via les comptes de la Team Javras sur les réseaux sociaux et de m'envoyer un petit message. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute.
Eh ben, c'était bien sur ta clé aujourd'hui.
Ouais, faut que je pense à faire retirer sans échec, parce que je vais avoir des soucis à force.
Et puis j'espère que t'as pas de virus, parce que si tu nous claques le PC du studio, on pourra pas faire grand chose. Hein.
Non, c'est une très vieille clé. En fait, c'est un baladeur MP3, c'est le très vieux baladeur MP3 que j'avais au collège.
Ok. Bon. J'ai une oreillette qui ne marche plus, mais on s'en fiche. Bah, c'est pas grave. Je vais faire sans. Comme j'ai un gros paveton après et que je ne suis pas tout à fait sûr de la durée que ça va prendre, eh ben je te propose de faire une petite pause musicale. Comme juste après, on risque de parler un petit peu de vampires, eh bien, j'aimerais bien te faire découvrir un morceau musical. Est-ce que tu connais la série animée Vlad Love ?
Non, pas du tout.
Eh bien, moi non plus, mais... C'est une série qui parle de vampires que je n'ai jamais vue, mais du coup je sais juste que j'aime bien son générique, qui est fait par un groupe de jeunes femmes qui s'appelle Love Bites, et la chanson s'appelle Winds of Transylvania, et ça colle vraiment avec le thème que je vais aborder juste après. Donc on écoute Love Bites et Winds of Transylvania. je vous ai pas mis la chanson en entier, parce que le morceau en entier, sur le 101.5 de Radio G, c'est Love Bites. C'est un morceau qui fait quasiment 5 minutes, donc ça fait long. Comme je sais que, je sais pas en fait si je vais tenir, si je vais arriver à tout caler dans l'émission, je préfère couper maintenant.
Mais tu fais bien, écoute, déjà tu nous as fait découvrir ce morceau que je connaissais pas.
Des séries de vampires, en fait, il y en a plein. On va pas forcément les énumérer, mais il y avait Call of the Night, qui est assez sympa.
D'accord. J'ai pas du tout. Mais après, on n'a pas le même style d'animé, donc moi, je vais avoir.
C'est un peu de la romance quand même.
High School DxD.
Oui, d'accord.
Tu vois, moi, c'est plus ça.
Ah ouais. Bon, d'accord. Ok.
Mais tu vois
pas
ou pas
de jugement. Tu vois bien en plus.
Ok.
Bon, on va reprendre un peu notre sérieux.
Oui.
Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on avait déjà parlé d'un jeu de rôle qui s'appelle Chronique d'un vampire millénaire, qui est édité par l'Outre Rôliste. Pardon, je vous fais un tout petit topo, très rapide. C'est un jeu de rôle solo où, grâce à un système de dés, on va avoir des amorces. Et grâce à ces amorces, on va écrire nous-mêmes l'histoire de ce vampire millénaire en réaction à ces amorces.
Ouais, tu nous en avais parlé, c'est une sorte de journal intime que t'écris toi-même.
C'est ça. On est censé durer 1000 ans, plus ou moins. Il y a plusieurs fins possibles. Et le let's play de ce soir, ça va être la partie test que j'ai pu réaliser avec ce jeu. J'espère que ça va vous plaire. Je pense pas être un grand romancier. Donc, je vous prie d'être indulgent et j'espère que je vais vous emmener dans l'histoire de ce vampire que j'ai créé grâce à ce jeu-là. C'est un jeu qui est plutôt mature. J'ai pas mis volontairement de gore dans mon histoire, mais il peut y avoir des passages qui sont pas forcément super sympas. Donc, si vous êtes jeune ou un petit peu impressionnable. Vous êtes prévenus. Voilà. Je vais pas vous empêcher de l'écouter, hein. Et puis, peut-être que ça vous plaira. Allons-y. Je suis Adrius. Ou Karangathos. Ou vous m'avez peut-être connu sous un autre nom. Dans un autre temps. Je suis un vampire. Voici mon histoire. Ou plutôt ce dont je m'en souviens. Et ce que le temps en a conservé comme trace à travers l'histoire. Si vous semble décousu, c'est tout à fait normal. Ce ne sont que les lambeaux de mes souvenirs, les écrits qu'il me reste, les fragments de ma mémoire disséminés sur papier, sur une série de parchemins reliés par une lanière de cuir. Je suis d'origine gauloise et j'ai été enlevé petit par des Romains lorsqu'ils ont fait un raid sur mon village natal. Pris en tant qu'esclave, j'ai été confié à une école de gladiateurs pour devenir une attraction, un divertissement pour mes kidnappeurs. Au cœur de l'arène, j'acquiers non seulement des compétences de combat, mais je noue aussi des relations avec Zaacus, un ancien gladiateur âgé qui s'occupe de l'entraînement des plus jeunes. Mais aussi plus tard, avec Upios, un jeune compagnon gladiateur que je finirai par considérer comme un fils. À cette période, une relation conflictuelle avec Atras, un autre gladiateur plus vieux dont les capacités physiques sont largement supérieures à nous tous. Et encore plus quand les combats se déroulent en soirée. Je suis moi-même plutôt bon. Et pour me récompenser, Zaacus m'offre un jour son glaive. Le glaive qui lui a permis de gagner son premier combat dans l'arène et de garder sa condition d'affranchi qui lui permet aujourd'hui d'être notre entraîneur. Atras est plutôt jaloux de cette récompense et de mes récents succès. Parfois, je soigne Upios après ses combats grâce à ma connaissance de l'anatomie. Une connaissance acquise lors de mes nombreux affrontements. Le soin que je porte à Upios et le cadeau de Zaacus finiront d'attiser la jalousie de mon rival pour la transformer en haine. Atteint son paroxysme un soir alors que je venais de nouveau de combattre vaillamment dans l'arène et en sortir victorieux. De retour dans ma loge, celui-ci m'attendait. Il empoigna ma gorge et planta sa main droite dans mes côtes, saisissant presque mon cœur. Il me révéla que si je voulais être plus fort encore que lui, je le deviendrais, mais que ce don qu'il me faisait serait aussi ma malédiction. Peu de temps après, je tombais malade, très malade, et Atras disparut. Après avoir retrouvé un état de santé stable, je recommençais de nouveau les combats, presque comme avant. Sans que je sache réellement pourquoi ni comment, ma vitesse s'était accrue et mes capacités physiques atteignaient leur maximum à la tombée de la nuit. Étrangement, les plaies que m'avait infligées Atras ne se soignaient pas complètement. Parfois, de petits saignements apparaissaient, sans vraiment que l'on sache pour quelle raison. Quelque temps avant ces événements, j'avais commencé à rencontrer une jeune femme romaine influente du nom de Aria. Avec cette jeune femme, nous avons commencé à lier une relation. D'abord de sympathie, puisqu'elle aimait venir voir mes combats. Puis, des sentiments plus forts ont commencé à poindre. Afin de lier nos destins, Aria m'offrit un bracelet en laiton pour me porter bonheur. Celui-ci était gravé et frappé d'une divinité romaine que je ne connaissais pas. Au sein de l'arène, un surnom avait commencé à m'être donné, le Gaulois, par les spectateurs. Galvanisé par ce surnom, je me sentais l'avatar d'une divinité gauloise assoiffée de sang. Conjugué à mes nouvelles capacités physiques hors normes, je permettais à mon glaive de libérer mes braves adversaires de leur vie, ceux qui avaient encore le courage de s'opposer à moi. Très vite, j'ai pris du plaisir à tuer au combat. Mais un événement va précipiter mon histoire. Un soir, alors qu'Upios avait souffert de son combat, je pris comme à mon habitude le temps de le soigner. Alors que nous étions seuls, isolés, dans sa loge, une faim énorme me saisit, une faim telle que je ne pouvais ni la maîtriser, ni la contrôler, ni même la comprendre. J'étais spectateur de moi-même alors que mes dents et mes mains déchiraient la gorge et le torse d'Upios pour me nourrir, pour me repaître de son sang, comme une bête sauvage. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus humain, mais une bête sauvage, une créature impie que l'on nommait vampire. Cet événement a eu deux conséquences. La première, que le simple souvenir de cet événement évoquait en moi un dégoût fort de moi-même, un dégoût de l'appétit qui couvait en moi. Je prenais donc la décision de ne me nourrir au maximum que d'animaux malades ou mourants, et que si je devais me nourrir d'humains, ce ne serait que pour les soulager de leurs souffrances. La deuxième conséquence est que j'avais été repéré. Ma condition non humaine et mon meurtre, enfin celui d'Upios, me forcèrent à m'exiler. Mais je ne le ferai pas seul, et je n'eus pas à convaincre Aria de m'accompagner dans ma fugue. Nous décidâmes donc de partir en Gaule. Mon instinct de combat nous permettait de suivre les routes dangereuses, et surtout d'y survivre. Afin de gagner un semblant d'anonymat, je changeais mon nom en Carangatos. Lors de ce long périple, à chaque fois que la faim me tenait, qu'elle faisait rage, le souvenir de mon premier repas, le bracelet de laiton, mais aussi la présence d'Aria à mes côtés, me réchauffait le cœur et me permettait de tenir plus longuement, me rappelant l'engagement que je m'étais fait sur ma nourriture. Alors ça, c'est la première section de l'histoire de ce vampire. Je ne sais pas ce que tu en penses pour l'instant.
J'ai eu un petit peu de mal parce que j'ai l'habitude d'écouter des fictions audio et là ça me faisait plus penser à du livre audio et malheureusement c'est pas mon kiff d'entendre juste de la parole, il me faut une ambiance et ça manque un peu, je t'avoue.
Je sais pas quoi mettre en fait en ambiance.
Si tu veux je t'en mets une pendant que...
Eh ben vas-y, okay. Je t'en prie. Je continue puis je te laisse mettre de l'ambiance. De longues années plus tard, j'avais fini par m'isoler seul au cœur de la nature. Je déambulais, fuyant le contact des hommes. Un jour, je suis rentré dans une grotte plutôt grande et chaleureuse. Une grotte qui semblait occupée. Elle était occupée par une créature fantastique, une créature de la nuit, comme moi. Celle-ci ne semblait pas souffrir d'une faim contre nature, mais plutôt d'être affligée d'une sorte de maladie qui le transformait progressivement en végétal. Il me déclara s'appeler Cernunnos. Après plusieurs échanges, parfois tendus entre nous, Cernunnos se montra fort intéressé par une corne qui me servait de gobelet et que je portais à la ceinture. Il affirmait que cette corne était très ancienne et qu'elle était sienne, et surtout qu'elle lui manquait. Pour ma part, cette corne que j'avais trouvée au cœur de la forêt et en dehors de son utilité en tant que gobelet, je n'y avais aucun attachement. Je décidai donc de rendre à Cernunnos cette corne. Cette décision fut la bonne. Cernunnos se montra beaucoup plus amical et reconnaissant. Il me gratifia même de ce qu'il appelait sa bénédiction. Je n'ai jamais revu Cernunnos depuis, et je ne saurais si c'est son action qui me permit de mieux contrôler ma faim. Cette faim devenait moins présente, et lorsqu'elle venait à poindre, je me sentais plus faible, mais je ne risquais plus de perdre le contrôle, de devenir une bête sanguinaire capable de tout pour me nourrir. Je devenais capable de garder une certaine maîtrise de moi. Le risque de tomber dans un piège ou de tuer quelqu'un par inadvertance devenait alors beaucoup plus faible. Avec un peu de son, ça marche mieux.
C'est mieux, hein ?
Ouais. Je continue. Je ne saurais dire si c'était avant ou après. Je peux simplement resituer l'action en France. La situation est étendue à la fois sur le territoire, mais aussi auprès de mes amis Francis et Jean. Deux frères, qui depuis plusieurs semaines se disputaient la possession d'un puits. Situé dans une sorte de cabane en pierre, ce puits est une source d'eau, et donc, en cette période tumultueuse, une richesse précieuse. Afin de les aider et de les faire arrêter de s'entre-déchirer, je pris une décision. Je me faufilai une nuit dans la fameuse cabane et fis s'effondrer la structure de pierre tout en condamnant le puits. Toutefois, un accès subsistait, un accès privilégié pour moi, afin d'utiliser ce puits comme refuge. Je me fixais alors un autre objectif, celui de créer une sorte de culte à mon intention dans le secteur, de rester caché dans ce puits et que les adorateurs de ce culte puissent venir me faire des offrandes dans ce petit bâtiment une fois qu'il serait de nouveau debout. Mes plans ont été contrariés par la guerre. Cette guerre si violente ne me permettait pas de rester caché à la surface. Elle m'a obligé à prendre refuge dans le puits. Dans mon empressement à partir, j'ai perdu quelques souvenirs, quelques objets que je conservais de ma vie précédente, des pièces que je conservais de mon village natal. La guerre faisant rage au-dessus de moi, l'odeur du sang était forte chaque jour. Le bruit des combats se répétait, et conjugué à l'isolement, il finit par avoir raison de mon calme. Chaque nuit, lorsque des moments d'apaisement se faisaient ressentir, je sortais de mon repère, et malgré mon dégoût, malgré ma conviction, je traquais sans relâche les proies les plus faibles, afin de satisfaire mon instinct et mon appétit. Une autre longue période est passée. Je me retrouve en Angleterre. La période est indéterminée, la date est imprécise. Je suis incapable de la situer. Toujours est-il qu'après mes errances de la nuit, j'ai failli me faire surprendre par le soleil. Et j'ai trouvé refuge dans la cour d'une maison. Là, à côté de moi, se trouve Nathan, un jeune garçon aveugle qui ne soupçonne même pas ma nature. Son innocence le fait commencer à discuter avec moi. Il semble être perdu, lui aussi. Sa façon calme de me parler, son timbre délicat, fait surgir en moi des sensations perdues qui m'apaisent et me calment. La maison dans laquelle se situe cette cour est celle de William. Je l'apprendrai plus tard à un lointain descendant d'Atras. À cause d'une santé fragile, celui-ci ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Par affection pour la relation que j'ai avec son fils, j'utilise mes connaissances de l'anatomie, celles acquises lors de mes nombreuses années de combat, pour l'aider à remettre son dos en état. Faim. J'ai faim, trop faim, tuer, manger, faim. Après une ou plusieurs nuits sans souvenir, je me suis réveillé. J'ai trouvé Nathan me regardant reprendre connaissance. Ses deux yeux en bouton noir me regardaient fixement. Sa petite voix s'adressant à moi directement dans ma tête. Il était assis sur une pierre, son corps en chiffon légèrement affaissé, la tête sur le côté. Nous avons depuis cette nuit-là des discussions régulières qui rompent ma solitude. Oh, je sais qu'il chasse aussi. Les traces de sang sur le tissu de son corps le trahissent. Il est comme moi, mais plus discret. Une nouvelle époque, plus récente. J'ai fini par avoir des routines, afin de gagner du temps, afin d'éviter les gens. Je fréquente les gares routières. Les bus de nuit sont devenus mes alliés, facilitant mes trajets, mes déplacements. Mais ils sont aussi une source de rencontres d'individus. Des individus parfois perdus, des invités, parfois seuls, pouvant devenir mes repas. À plusieurs reprises, j'ai ressenti de la méfiance et j'ai dû changer mes trajets. J'ai cru plusieurs fois reconnaître une femme étrange. Elle semble me pourchasser, me suivre et utiliser les mêmes méthodes de traque que moi. En enquêtant, j'apprends qu'elle appartient à une lignée de Zacchus. Elle appartient à un ordre fondé par Zacchus lui-même pour détruire des créatures de la nuit, des créatures marginales, comme moi. Mais cette jeune femme n'a pas mon expérience et ma ruse. Un jour, la traque s'est inversée. Je finis par arriver à l'acculer et à la confronter. Elle est là, devant moi, implore pitié. Une pitié qu'elle va jusqu'à négocier contre les secrets de son ordre. Elle se justifie par son intention de comprendre le lien qui unit une créature de la nuit et le fondateur d'un ordre dédié à les traquer et les détruire. Comment deux personnes si éloignées ont pu autrefois être amis avant de devenir des ennemis héréditaires. Déjà repu et intrigué par cette jeune femme, je décide de lui laisser la vie sauve. Plus tard, dans la nuit, encore un peu hagard de cette rencontre, et sans doute aussi épuisé mentalement, je me dirige dans une rue calme. Là, la vitrine d'un antiquaire, toujours éclairée, attire mon regard. Dans la lumière blafarde du faible éclairage, deux yeux me regardent fixement. Il s'agit des yeux d'une chouette en argent, sculptée sur une fibule. Cette vision crée en moi une vague de nostalgie et de douleur. Mon corps se serre. Cette fibule avait appartenu à ma chère et tendre Aria. Sans réfléchir, d'instinct, je brise la vitre pour me saisir du bijou, puis je prends la fuite dans l'obscurité de la nuit. Quelques jours plus tard, encore abasourdi par cette rencontre fortuite, je porte le bijou. Je parle du bijou, pas de la jeune femme. J'en avais presque oublié de me nourrir. Épuisé par la faim, je me suis endormi, évanoui, sans m'en rendre compte, sur le bas-côté d'une route en campagne. Un individu a sans doute repéré et a cru que je faisais un malaise. En bon samaritain, mais surtout ne trouvant pas mon pouls, il tenta de me sauver en utilisant un défibrillateur. Ma physionomie de vampire ne voulant pas repartir avec cette technologie moderne, je commençais à convulser et à brûler sous le coup des décharges électriques du défibrillateur. L'odeur nauséabonde, créée par cette brûlure intense sur mon corps, sur ma peau, a fait fuir mon prétendant sauveur. Je me réveillais quelque temps plus tard dans une maison, ou plutôt une cabane en bois perdue, dans la forêt. Mon corps avait bien entendu commencé à guérir et à panser ses blessures, mais j'étais encore faible. Et dans un angle de la maison, un homme me dévisageait. De jour en jour, l'homme me soignait. Il commença même à me donner quelques animaux en guise de repas. Il semblait savoir qui j'étais et s'ouvrit à la discussion. J'appris que l'homme s'appelait Isaac, que cet homme était en possession du journal de Aria, ma chère et tendre. Et aussi dingue que cela puisse être, il était un de ses lointains descendants. Petit à petit, nous avions créé une sorte de lien, au fur et à mesure de nos discussions, gagnant une confiance mutuelle, celui-ci s'ouvrant de plus en plus à moi. Il finit par me présenter une jeune femme, sa fille. Cette jeune fille fut un choc de nouveau violent pour moi. Les traits de la jeune femme étaient quasi identiques à ceux de ma défunte aimée. Au bord de la folie de ces différentes révélations, je fuis à nouveau. Je laissais passer des jours, des années, complètement isolé. Quasiment arrivé à l'état de clochard, je profitais des centres d'accueil pour personnes en difficulté. J'y trouvais un peu de chaleur, de quoi me laver et me couvrir. Les interactions sociales y étaient risquées, mais globalement rares. Néanmoins, dans une journée plutôt classique, une des autres personnes présentes a été prise d'un accès de violence incontrôlable, blessant plusieurs personnes, dont moi, avec un des couteaux qui servait simplement à couper la viande. Sur place, les bénévoles ont tout de suite voulu porter secours à tout le monde et me soigner. De crainte que mes capacités de guérison ne suscitent trop de questions, j'ai préféré fuir. Un déclic m'a fait fréquenter un centre d'entraînement à la boxe et au combat mixte. Mes compétences de gladiateur me permettant de gagner l'estime de certains élèves. Rapidement, j'ai acquis un statut de quasi-entraîneur. Mon expertise au combat, me permettait de leur apprendre à frapper les bonnes zones pour faire mal, mais aussi de les entraîner à encaisser la douleur, de faire de cette douleur une alliée, ou tout du moins, plus une ennemie. Ce renouveau de relations sociales me permettait de reprendre le dessus. Je regagnais ma notion de chasseur. Je finis par apprendre les langues de certaines communautés et servais de point d'ancrage, un point de contact idéal à des personnes fuyant des pays en guerre pour trouver refuge dans ces centres d'accueil. Les centres d'accueil que j'avais fui, mais que je connaissais. Mes compétences sociales, mes compétences en langue, faisaient de moi un passeur, un traducteur, une personne de confiance, mais aussi un danger. Parfois, les migrants les plus isolés, ceux que je savais sans famille et sans attache, ne gagnaient jamais la sécurité d'un nouveau foyer. Ils devenaient mes proies favorites. Mes repas. Mais un jour, alors que tout ce qui semblait être une nouvelle proie... sollicitait mes services, je tombais dans un piège, probablement par excès de confiance. Il semblait que mes nouvelles habitudes avaient mis en alerte certains services spéciaux de Roumanie. La disparition de plusieurs ressortissants, dans un laps de temps sans doute trop court, était devenue suspect. Mes méthodes avaient aussi réussi à attirer l'attention d'un groupe spécialement conçu pour s'occuper des créatures dans mon genre. Après tout, il paraît que mon lointain ancêtre ne venait-il pas de cette contrée lointaine ? Quoi qu'il en soit, je suis actuellement dans une cellule, bien sombre, nourrie chaque jour par des sortes de pipettes qui sont glissées sous ma porte. Je suis isolé dans cette cellule, mais je ne suis pas seul. Je le sais. De nombreux congénères sont enfermés autour de moi, et parfois depuis des éternités. Combien de temps restera-t-il avant de perdre la raison, avant de perdre ce qui me reste de mémoire ? Nul ne le saura, jamais, moi inclus. C'était mon histoire, l'histoire de quelqu'un qui a perdu son nom, son identité, sa vie, la chronique d'un vampire millénaire. Ça a été plus court que ce que je pensais. Je savais pas comment ça allait se gérer en termes de temps.
Ok.
Qu'est-ce que t'en as pensé?
C'est mieux avec un fond sonore.
C'est mieux avec un fond sonore, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et ça marchait bien en plus, là, avec le fond que t'avais choisi.
Ah, ça vient d'un jeu vidéo de
vampire.
De Dontnod qui s'appelle Vampire.
Trop bien.
Voilà.
Alors, tout ça, c'est le fruit de mon imagination, bien entendu. Mais c'est aussi la réaction, en fait, à certaines amorces qui sont dans le jeu. Et je me suis laissé guider, en fait, par ces amorces pour créer l'histoire de ce vampire.
C'est ça, c'est tu jettes un dé, ça t'emmène à une page et après t'as une amorce.
Alors en fait, tu vas jeter deux dés, tu jettes un dé 6 et un dé 10, okay. Et tu fais la différence du dé 6 et du dé 10, et tu vas avancer ou reculer du nombre d'amorces qui correspond. Parce que tu peux reculer.
Oui, oui, puisque c'est le dé 6 moins le dé 10.
C'est ça.
Okay, ouais.
Et en fait, chaque amorce est divisée en plusieurs parties. On peut retomber trois fois sur la même amorce, mais chaque amorce va te permettre de progresser dans l'intrigue qu'elle t'a proposée.
D'accord. Et donc, en fait, là, t'as fait cette histoire, tu l'as écrit directement sur ta tablette et pas sur le livre.
Ouais.
Ouais. Ouais.
Ouais, c'est vraiment ce que je conseille.
Le livre est très beau et je trouvais ça dommage quand tu me l'as montré il y a un mois maintenant.
Ça fait au moins un mois, ouais.
Quand tu me l'as montré, je trouvais ça très beau, le livre très beau, et je trouvais ça dommage d'écrire dessus directement.
Eh ben, alors, ce que conseille l'éditeur, et ce que font pas mal de joueurs, c'est autant que possible d'utiliser le numérique, parce que ça apporte pas mal de confort en termes d'écriture, puisqu'il y a des moments où on va rayer des paragraphes, il y a des paragraphes qui peuvent revenir... Pour vous expliquer un peu cette mécanique-là, on ne peut avoir qu'un certain nombre d'expériences qui sont divisées en souvenirs.
Okay.
Et quand on doit en avoir un de plus, bah, il faut qu'il y en ait un qui disparaisse. C'est pour ça que le personnage perd des fragments de sa mémoire. Il y a des choses qui vous ont peut-être semblé décousues dans l'histoire. C'est simplement parce qu'il les a perdus, en fait, ces éléments-là.
Okay.
Et bah, il y a des éléments qu'on peut stocker dans un journal. On peut stocker, je crois, de mémoire, trois expériences, trois souvenirs. Non, c'est des souvenirs qui sont divisés en expériences. Et on peut sauvegarder dans un journal un certain nombre de souvenirs, trois de mémoire. Le problématique, c'est que ces souvenirs-là, si on perd le journal, ben on les perd. Ils sont définitivement perdus et le vampire ne s'en rappellera pas.
Ok.
Au cours du jeu, on va créer des personnages qui parfois vont juste être créés et puis ne jamais être utilisés. Des fois, ils ont des conséquences. Des fois, ils partent vite. Des fois, faut pas s'y attacher parce que l'amorce dira qu'il se passe quelque chose avec un personnage et ce sera à nous, en fait, de meubler et de raconter ce qui s'est passé avec ce personnage-là. C'est une expérience qui est vraiment très intéressante pour peu que vous vous laissiez porter. L'éditeur conseille beaucoup de laisser les premières intuitions qu'on a lorsqu'on va lire en fait l'amorce venir comme elles viennent, laisser vraiment son imagination se porter parce que l'amorce nous suscite en nous. C'est souvent les moments les plus intéressants puisque c'est vraiment c'est de l'instinctif, c'est pas du réfléchi.
Okay.
Donc c'est vraiment cool.
Là, techniquement, est-ce qu'on considère que ton histoire que tu nous as racontée ce soir, tu termines sur un game over?
Eh ben, je termine complètement sur un game over, puisque l'amorce que j'ai eue en dernier, je crois que c'est... Je sais même pas si c'est celle qui est ici.
C'était vous mourrez en prison ou un truc comme ça.
C'est ça, en fait. Ouais. Je sais plus. Parce que c'est un gouvernement vous capture, vous reconnaissant pour ce que vous êtes. Que fait-il de vous? Le jeu est terminé.
Et il y a une bonne vingt?
On finit toujours par mourir, je pense. Après, il y a, je ne sais plus combien d'amorces au total. Je crois qu'il y a 80 amorces sur la version de base. Il y a d'autres dans les annexes. Il y a d'autres amorces qui sont proposées par d'autres auteurs pour venir compléter un petit peu le jeu de base. Je pense pas qu'il y ait une bonne fin. Après, ça dépend ce que vous appelez une bonne fin, puisque c'est vous qui allez la créer en fait.
Oui, bien sûr.
Là, le gouvernement vous capture.
L'amorce te laissait aucune bonne fin.
Bah, si, pourquoi pas. Hein. En fait, on pourrait imaginer un gouvernement vous capture, vous reconnaissant pour ce que vous êtes. On me capture, on fait de moi un roi. Hein. Ah. Le jeu est terminé. Après, ça peut marcher. Hein. Mm-hmm. Faut savoir que globalement, les amorces n'ont pas de temporalité, sauf quelques-unes. Et il est tout à fait possible de jouer un vampire dans l'espace, un vampire sur une planète, un vampire... ou une créature différente dans ce qu'on veut, en fait.
Okay.
Donc c'est un jeu qui est vraiment, je trouve vraiment très cool, très intéressant, et ouais, faites-vous plaisir avec ça, parce que c'est une vraie pépite. Là, j'ai passé plusieurs heures à faire cette partie. Je n'ai exploré qu'une fraction, en fait, des amorces. Je ne les ai pas comptés, mais je crois que j'ai dû en faire entre 25 et 30 amorces sur 80. Et donc le parcours sera forcément systématiquement différent, et qu'une même amorce ne suscitera pas forcément les mêmes choses et la même rédaction. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Oui, c'est ce que je disais, puisqu'avant qu'on dérive, beaucoup de personnes, en fait, qui jouent. Donc, non seulement le bouquin est très joli, je peux te laisser éventuellement en parler, mais l'éditeur et beaucoup de joueurs, en fait, conseillent de prendre un petit carnet à côté et de re-rédiger un petit peu à la manière d'un journal intime ce que votre vampire va avoir vécu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du livre en lui-même? Parce qu'il est vraiment...
Je comprends le potentiel de ce jeu de rôle solo.
Qui n'est pas un livre dont vous êtes le héros.
Mais non, c'est un jeu de rôle, puisque c'est toi qui invente l'histoire, on te donne juste les lignes directrices. Et ça me parle. Mais...
pas pourquoi.
Alors, nous, on a la vanne, on se comprend, mais si, imagine, t'as des auditeurs qui arrivent juste aujourd'hui, ils vont pas comprendre.
Il faut expliquer un petit peu. Donc, Richard fait une fiction audio qui s'appelle La mémoire arrangée. Et, grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que les protagonistes vont découvrir leur feuille de perso au dernier moment. Et il y a des points de passage. Et entre les deux, c'est un peu freestyle.
Ouais, ils improvisent les dialogues.
Ils improvisent tous les dialogues, et ça donne des choses qui sont très, très, très intéressantes. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs. C'est quoi le site déjà, Javras?
Vous tapez La mémoire arrangée sur YouTube ou sur votre application de podcast ou de musique préférée, puis vous nous trouverez.
Eh ben, faut y aller.
La mémoire arrangée.
La mémoire arrangée.
Je comprends le potentiel de ce livre. Vraiment, j'ai envie de te le piquer. Mais pas pour moi, pour que ma conjointe puisse le tester. Parce que je suis pas très, très, comme je te disais, je suis pas livre audio. Et je suis encore moins roman. Et malheureusement, tu peux que écrire du roman avec ce genre de livre. C'est ce que tu nous as
fait. Tu peux rester sur des choses très courtes, en fait.
Ouais.
Ça peut être très incisif, ça peut être... moi, je me suis un petit peu laissé emporter, comme beaucoup, en fait, de créateurs, notamment dans les fictions audio. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, je savais pas trop où aller. Mmh. J'écrivais des trucs très courtes, une phrase ou deux. Et puis à la fin, je commençais à écrire des pavés. Je fais « Ok ». Je me suis enflammé et je suis parti dedans.
Je trouve ça trop cool parce que sur chaque page d'amorce, t'as des petits dessins qui accompagnent chaque amorce.
Ouais, le livre, il y a eu un très très gros travail graphique dessus. C'est un excellent bouquin.
Alors c'est des dessins vraiment.
Ça fait lithographie, ouais. Impression à l'ancienne. J'ai pas le terme exact, mais
je ne l'ai pas non plus, mais on se comprend. Ouais, c'est trop clair.
Les vieilles images que vous aviez imprimées sur du bois ou des sculptures comme ça, eh ben ça ressemble un petit peu à ça. Du coup, en fait, on a plein de temps libre encore.
Ouais, bah ouais. Est-ce que tu veux que je te spoil un petit peu ma prochaine chronique?
Eh ben oui.
Je vais.
T'en as déjà écrit combien là? Tu sais à peu près combien t'en as?
En fait, avant de faire des chroniques pour toi, on avait parlé de ce projet, et de mon côté, j'ai commencé à écrire des pré-chroniques que je fais en reels sur Instagram et TikTok. Mm-hmm. Et toi, t'as des versions beaucoup plus longues, et je vais essayer de faire plus longues que les deux actuellement.
Ok. On était quoi sur 6 minutes, hein, c'est ça à peu près?
Même pas, t'as 3 minutes 45, je crois.
3 minutes 45.
Ouais.
On va vérifier.
Et il faudrait que je te fasse le double en vrai, c'est ce qu'on s'était dit.
Bah, ce serait 3 minutes 25 pour Ciné Furax.
Ouais, c'est ça. La même. Ciné Furax et Matrix faisaient 3 minutes 25 les deux. Il faudrait que je te fasse le double. Et que je mette des extraits un petit peu plus longs.
Ouais, on peut.
Et la prochaine fois, je vais parler de notre maître à tous en matière de jeu de mots.
Oh, reflet d'acide ?
Non.
Adoprixoxis ?
En jeu de mots.
En jeu de mots ?
Ouais.
Je suis perdu.
Je vais parler de François Pérusse.
Ah !
Je vais parler des 2 minutes du peuple.
Ah bah oui, là effectivement. Là on est même dans l'absurde plus que le jeu de mots. C'est vraiment du... Ouais, c'est fabuleux François Pérusse.
Ouais. Ça va être bien.
Ouais. Moi, je me rappelle toujours, là, on partage un peu d'expérience, mais de cette période où on se dilait sous le manteau des CD gravés, où il y avait une pile de Donjons de Nihilbuck, par exemple, où à chaque fois, il y avait juste un épisode en plus, parce que c'était sorti.
Si tu veux l'anecdote, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la fiction audio alors que je n'avais pas d'ordinateur. C'est-à-dire que je prenais mon vélo, je faisais 45 minutes de vélo pour aller au village d'à côté, pour aller squatter chez mon pote, pour écrire avec lui une fiction audio, le mixer chez lui, et après je refaisais 45 minutes pour rentrer chez moi. Et entre nous deux, en fait, c'est plus moi qui avais envie de faire ça.
C'est terrible, ça.
Donc j'étais très svelte à ce moment-là.
Hey, j'imagine, ouais, ça faisait...
Depuis j'ai mon PC, ça va moins bien.
T'es moins svelte.
Non.
Bon.
Mais ouais.
Non, mais on va parler des fictions audio comme ça. Je pense qu'il y a des fictions audio qu'on a tous entendu parler. On parlait des Adoprixoxis, qui était plutôt une fiction audio. Chacune a fait son petit truc en plus. Donc Adoprixoxis, c'était de rajouter des guests vocaux piqués un petit peu partout. On avait Dark Vador, on a eu Homer Simpson.
Ah, oui, en fait, c'est de l'humour de référence.
L'humour de référence.
Il y a plein de références. On va entendre Homer Simpson, on va entendre Homer Simpson.
Je me souviens d'un passage où, à un moment, un personnage descend dans des égouts et tombe sur des pièces de monnaie à la Mario. Oui. Et c'est la sonnerie des pièces de monnaie de Mario.
Tout à fait. Et après, il tombe sur les Tortues Ninja aussi. Donc, ouais. Mais après...
Il y a Reflet d'acide.
Reflet d'acide. Mais là, tu cites les classiques, en fait. Les grands noms. T'as Reflet d'acide, alors qui est la fiction à écouter si vous aimez la langue française, puisque JBX est un fou, mais un fou genre hyper carré, c'est-à-dire qu'il a écrit une fiction audio où tous les dialogues sont en vers et en alexandrin.
Les textes sont ciselés, c'est monstrueux.
Et par contre, c'est de la fantaisie pure et dure. Et c'est bien. Ouais.
Avec beaucoup de jeux de mots aussi.
Ouais, ouais. Alors, par contre, on est plus sur du jeu de mots...
C'est plus fin.
Plus fin, plus ciselé, j'ai envie de dire. Et c'est le genre de truc que t'es obligé d'écouter 2-3 fois et à la 4e fois, tu fais, oh, j'avais pas compris ça.
Ouais. Même dès la première scène, je crois, on a, c'est un groupe d'aventuriers qui rentre dans une taverne.
Tout à fait.
Et il y a un espèce de géant du feu de mémoire.
Oui, Zeyrman
qui demande un bol de cendre. Et là, le barman lui fait, s'il fait si chaud que ça dehors. Et il y a un des personnages qui fait, il fait plus chaud dedans que dehors.
Oui.
Et il y a un des personnages qui répond, c'est ce qu'il me disait mon petit mari.
Tout à fait.
Et ça passe tout seul.
Ça passe tout seul.
C'est, voilà. Bref. C'est juste génial. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Alors, on a parlé beaucoup aussi du monde de Monsieur Fred.
Ouais. Et j'ai toujours pas écouté.
Toujours pas écouté.
Il faut.
C'est une tuerie.
Ouais.
D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y a la petite ref, dans le générique des Volicinarium, oui, avec les Munchkins du Magicien d'Oz avec Julie Garland.
Vous avez raté ça. Il y a Seb qui s'est dandiné, qui a dansé devant moi sur le Magicien d'Oz.
Il y a pas de caméra dans le studio, on est tranquille, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en série audio
Le Donjon de Nihilbuck.
Le Donjon, simplement,
en fait.
Je n'ai
pas encore parlé. Il va falloir que je m'y attelle, que ce soit en Reels ou ici. Moi, ma vraie première fiction audio qui m'a donné envie de faire de la fiction audio, ça s'appelle Kingdom Path. C'est une parodie du jeu Kingdom Hearts.
Ok.
Et là où Kingdom Hearts est un... Excusez-moi pour le mot, mais un bordel sans nom... pour niveau scénario, autant Kingdom Path arrive à prendre le truc et à se dire ok, moi je vais faire une histoire et ok, moi juste en une saison, enfin juste en une seule histoire, je vais vous ficeler le tout et ça sera ok.
Et ce sera fini, ok, ouais. Oui. Après, on peut rajouter des saisons avec plus de complexité, un peu comme le fait le jeu vidéo. Hein.
Tout à fait, mais c'est ce qu'il a fait. En fait, Kingdom Path se suffit à lui-même, puis après il a fait Kingdom Path Uchronies, où chaque épisode est une sorte de fausse bande-annonce de Kingdom Path 2, Kingdom Path, la naissance du caleçon, qui est la parodie de Birth by Sleep.
Et des fois, je suis pas prêt quand même.
Mais voilà, c'est un génie Istune niveau humour, c'est le créateur Istune. Ça m'a donné envie de faire de la saga, et si bien que j'ai réussi à avoir un rôle dans cette saga, donc j'étais trop
content. Ah, la grande star maintenant.
Voilà.
Je peux avoir une dédicace.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en fiction audio? Moi, je me souviens surtout, Arthur, tu parlais de, quand on parlait de Chronique d'un vampire millénaire, de lecture audio, en fait, d'audiobook. Mm-hmm. Moi, je me souviens beaucoup, en fait, de certaines fictions qui étaient, plutôt des pièces radiophoniques.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un peu comme Signé Furax.
Bah, Signé Furax en est une, en fait, de base. Mais, pareil, je vais pouvoir vous parler des Maîtres du Mystère, qui est, comme Signé Furax.
Okay.
Qui était produit de la même façon, si ce n'est que les Maîtres du Mystère, c'était un rendez-vous de soir, et vous aviez une sorte de one-shot, une histoire qui se suffisait à elle-même de 40 minutes, où ça parlait soit de meurtre, soit de complot, soit d'adultère, quelque chose de très très noir, très enquête policière. Et c'était trop cool.
Ouais, j'ai envie de découvrir ça.
Et en fait, moi, j'ai découvert ça il y a 3-4 ans, et j'ai dit, c'est trop cool, et j'ai l'impression que France Culture a redécouvert ça, ils ont dépoussiéré, si bien qu'ils sont en train de les remettre eux-mêmes en format podcast.
Terrible. Ah, c'est fabuleux. Après, ça me fait penser aussi à tout ce qui est un petit peu annexe, les épisodes audio qu'on peut retrouver par exemple par la BBC sur les épisodes de Doctor Who.
Bien sûr.
Ou la même chose en animé, en fait, il y a aussi des épisodes joués qui sont disponibles qu'en audio. Alors je sais pas si One Piece l'a fait, mais il y a certaines séries animées qu'on fait ce genre de choses là.
Oui, c'est plus au Japon effectivement, ils font ça. Ils font des audio dramas.
C'est audio drama,
c'est très bizarre parce que dans chaque pays, ça veut dire complètement différent. C'est complètement autre chose, mais il s'avère que au Japon, ils font des CD où vous avez des OAV de séries que vous aimez et vous avez un petit peu de musique et en même temps vous avez une histoire et c'est voilà. Et
comme quoi la création audio et raconter une histoire en audio, il y a plein de choses en fait.
Mm-hmm.
C'est beaucoup plus grand.
Ouais.
En fait, t'as 10 saisons là de DTC du coup.
Non, clairement pas. Là, déjà, si j'arrive à tenir toute la saison, je serais déjà bien content.
Mais tu vas tenir, il n'y a pas de souci. Bon, eh ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je propose qu'on se quitte. Merci à toi, Richard, d'être venu ce soir.
Merci à toi, Seb, de m'accueillir.
Ben écoute, t'es le bienvenu quand tu veux.
Ben écoute, je reviens à chaque fois parce qu'il commence de plus en plus à faire froid dehors. Moi, j'attends.
Bon, eh ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous connecter sur le www.radio-g.fr pour écouter le podcast de l'émission. N'hésitez pas à l'écouter La Mémoire Arrangée sur le site Javras. Et on se retrouve dans 15 jours pour parcourir et arpenter à nouveau les voies du scénarium.